Un sujet joyeux. Le Dieu juge. En fait, un sujet super important. Super important. Alors, si vous joignez à nous pour la première fois au cours, c'est possible de recevoir les notes de cours en écrivant au secrétariat de l'Église. Vous pouvez les recevoir par courriel. On met toujours des copies disponibles dans l'entrée sur une petite table. Là-bas, il y en a une copie encore ce matin. Et vous pouvez retrouver sur le site web à la fois les notes PDF et puis un format audio du cours. Donc, vous pouvez aller vous rattraper aussi si vous voulez écouter l'entièreté du cours. On va aller ensemble dans un mot de prière.
Tu veux-tu dans la salle, lui?
Oui, s'il te plaît. Oui, un petit peu dans la salle, s'il te plaît, François. J'avais 10 copies, alors il en reste peut-être plus.
J'ai fait une autre que je ne pouvais pas faire.
Merci. Tu ne seras pas dans la salle? OK. OK, on va aller ensemble dans un mot de prière. Bien éternel, notre Dieu, nous venons devant toi ce matin, Seigneur, pour parler de ta grandeur, Seigneur, dans ce qu'elle implique de plus, probablement de plus terrifiant, Seigneur, parce que tu es droit. Tu es droit, Seigneur, et nos cœurs, naturellement, ne le sont pas. Et prendre conscience, Seigneur, de ta droiture, de ta sainteté, de ta justice, de ta conscience de ce que nous sommes dans nos moments, Seigneur, de faiblesse, dans ce que nous sommes de plus profond, des êtres qui ont été profondément affectés, infectés par le péché. C'est terrifiant, Seigneur. En même temps, Père, on veut reconnaître cette grandeur, comme cette vertu, Seigneur, du Dieu juge que tu es. Car c'est là aussi qu'est tout notre espoir, Seigneur, dans un monde qui fait du sens, qui se tient, parce qu'il sera examiné, parce qu'il est examiné et jugé, et que tu ne laisses pas aller le coupable sans qu'il ait à paraître devant toi, Seigneur. Viens nous parler ce matin à travers cette révélation de ta personne, à travers ta parole, et Seigneur, que nous puissions grandir dans cette compréhension, cette appréciation de ce que tu es, Seigneur, et que cela vienne nous façonner, nous transformer nous-mêmes à ton image, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Je voulais un passage dans Hébreux 12, les versets 20 à 26 pour commencer. Et ce spectacle était si terrible, l'auteur de la lettre aux Hébreux fait référence au moment de la révélation de la loi dans l'Ancien Testament, passage où on se trouve à peu près dans la série actuellement des 10 commandements. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, nous dit l'auteur des Hébreux, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix est alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Voilà une image de Dieu qui n'est pas tellement plaisante au regard contemporain, à la manière qu'on voudrait imaginer Dieu ou concevoir Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? D'une part, on regarde ce qui se passe sur la terre, la souffrance des hommes, qui est infligé par d'autres hommes qui les dominent, qui les écrasent, des despotes qui abusent des peuples entiers. On voit toutes sortes de choses comme ça. Et puis, il y a un élan en nous qui voudrait qu'il y ait une justice qui se fasse, chrétien ou non. Et d'autre part, lorsqu'on se tourne vers Dieu, on ne voudrait certainement pas l'imaginer comme le bras armé qui va venir se prononcer, trancher, juger, ébranler la terre et les cieux. Non, celui-là, on voudrait le voir comme un bon papa qui est juste là pour nous dire: « T'as fait une niaiserie, mon grand. Viens dans mes bras, papa t'aime quand même, même si tu as tué quelques milliers de personnes. Alors, ce n'est pas une image qui est très, très attirante à notre époque, dans notre vision de Dieu. Donc, j'ai une question pour vous, j'ai un micro. Alors, j'aimerais ça que vous parliez dans le micro, simplement pour l'enregistrement. Je vais vous demander quand même de faire porter votre voix un peu plus fort, d'accord? Comment est-ce que vous voyez Dieu? Est-ce que vous croyez au jugement divin? Je sais qu'il y a juste une bonne réponse dans une église comme ici, mais j'aimerais ça vous entendre juste comment vous voyez ça quand même. Croyez-vous en un Dieu qui soit votre juge à vous? Puis on a en plus de ça un assistant ce matin. Qui veut se prononcer? Est-ce que vous croyez dans un Dieu qui soit votre juge à vous? Dieu a déjà entendu toutes vos réponses, là, mais nous, on aimerait les entendre. Oui, Karine.
Là, tu parles pour les chrétiens.
Non, tu ne seras pas amplifié. Okay. C'est juste pour l'enregistrement, donc il faut que tu parles fort.
OK, donc, je parle pour les chrétiens.
Toi.
OK. il va avoir le tribunal de Christ.
OK, le tribunal de Christ.
On ne sait pas trop ce que ça implique, mais on sait que quand même, on va avoir à rendre des comptes pour la parabole des talents aussi.
Oui, la parabole des talents. Où il
on
va
sait
avoir...
qu'on a à rendre compte, on a des comptes à rendre.
OK, OK. Comment est-ce que vous voyez ça aujourd'hui, cette notion-là du Dieu juge? Et peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui êtes encore mal à l'aise avec ça, puis vous vous réfugiez constamment dans la grâce, puis vous dites, ouf, OK, là, je suis capable de l'accepter en voyant la grâce. Peut-être que vous n'oserez pas exprimer ça ici ce matin, de peur qu'on vous juge. Oui, Denis.
Mais en fait, quand le Seigneur est venu sur terre, il a dit lui-même que, dans un sens, que si on le refusait, on était nous-mêmes le juge de nos propres décisions. On a nos conséquences de décisions.
Oui.
Puis je pense qu'une des raisons pour lesquelles le Seigneur est venu sur terre, c'est pas juste pour un exemple moral, parce qu'il a souvent parlé de l'enfer, mais du moins loin de la face de Dieu.
Oui.
OK?
Oui.
Donc, si le Seigneur est venu sur terre, c'est pas juste pour donner un exemple moral. Mais aussi, c'est à vous dire aux gens, écoutez, là, il y a quelque chose après la vie, là, OK? Puis si vous voulez vous retrouver loin de la face de Dieu, ben je veux dire, simplement de ne pas tenir compte de mes paroles, sinon autrement. Mm. Fait que c'est évident qu'il y a un jugement qui vient derrière ça.
OK. C'est okay? Bon, merci. Il y avait Camille en avant. Merci, Denis. OK, juste parler un petit peu plus fort.
OK, c'est sûr que...
Le micro, c'est pas pour l'amplification, c'est pour l'enregistrement. C'est normal que vous n'entendiez pas dans les haut-parleurs.
L'enregistrement, ils vont m'entendre comme trop fort. Mais c'est sûr que quand on est chrétien, on dit, ben je crois là, au jugement de Dieu, c'est écrit dans la parole, puis tout ça. Sauf que je me rends compte que dans mon cœur, il y a comme toutes sortes de mélanges. Je me dis, bon, même dans la parole, c'est écrit que Dieu, il juge. Même sur Terre, présentement, il y a des jugements qui sont faits. Puis d'autres, on dirait qu'ils tardent. On dit, mais pourquoi, Seigneur, tu tardes à juger? T'as jugé lui? T'as jugé Pharaon? T'as tout détruit son armée? Mais l'autre, là, qui est là aujourd'hui, puis qui écrase un peuple, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'attends? Tu sais, c'est comme un juge, pas comme constant. Puis il est difficile à comprendre dans ce sens-là. Mm-hmm. Et en même temps, il y a aussi... le regard que je porte sur moi qui est beaucoup trop clément et je me dis, ben écoute, lui il est bien plus méchant que moi, pourquoi lui sa vie est belle puis que moi j'ai de la misère, ou tu sais, c'est des choses comme ça, j'ai comme de la misère à cerner la justice de Dieu comme ici-bas présentement. Et évidemment on sait que ultimement Dieu va juger d'une manière drastique et claire et nette là. Mais pour l'instant, sur terre, ce que je vis, c'est comme Dieu, tu vas juger quand est-ce. C'est que c'est ça. C'est un peu.
Ouais, c'est
ça
bon,
que
je vis. J'aime ça. OK, merci. Merci. Excellent. C'est un aspect de la personne de Dieu, le Dieu juge, qui n'est pas beaucoup intégré dans notre adoration, dans notre vision quotidienne de Dieu. Puis moi, je vous soumets l'idée suivante. De pas suffisamment méditer, réaliser que Dieu est juge, vient nous empêcher d'apprécier entièrement l'Évangile. D'accord? L'Évangile prend toute sa beauté lorsqu'on revient au fait que Dieu va juger toutes choses et que Christ s'est interposé entre notre juge et nous. Il a offert sa grâce, d'accord? Et donc, ne pas maîtriser ça, ne pas l'intégrer, ne pas y revenir parce que ça nous fait du bien juste de dire, OK, moi j'ai été gracié, là, c'est correct, je suis clean, j'ai plus besoin de penser au Dieu juge. Ouais, mais si tu y penses pas, tu saisiras pas tout à fait la grâce. Et c'est pour ça qu'on trouve cet agneau immolé hein, sur le trône dans le livre de l'Apocalypse. Il ne nous sera pas donné d'oublier le Dieu juge parce qu'on a été gracié dans l'éternité. Sa sainteté, sa gloire, sa justice va toujours être là devant nos yeux, accompagnée de sa grâce, d'accord? Donc, ça demeure quelque chose d'important. Effectivement, ça nous amène à se poser toutes sortes de questions très concrètes sur la terre. Pourquoi est-ce que Dieu va juger actuellement de son vivant quelqu'un en le frappant? Puis tu vois des cataclysmes, tu vois des situations, puis des fois tu dis... Il y a quelque chose qui s'est passé là, il y a eu un jugement même divin dans certains cas. Des fois, c'est surprenant à quel point le méchant est frappé, puis d'autres fois, oups, non, comme il s'en sort, il n'y a pas de problème. En même temps, je pense qu'une chose qui convient de se rappeler toujours à cet égard-là, c'est que si Dieu administrait son jugement immédiatement, c'est fini, là. Comprenez? Si Dieu administre son jugement actuellement, tout de suite sur tous les hommes sur la terre, il reste juste ceux qui sont en Christ. Alors, priez vite pour vos proches qui ne sont pas encore à Christ. Hein. Et donc, chaque fois qu'on voit Dieu intervenir puis administrer un jugement actuellement sur la terre, ce sont toujours des avertissements que Dieu est en train de donner pour nous rappeler qu'un jour, toute l'humanité va comparaître devant lui. Et en réalité, ces jugements-là doivent être vus comme un temps de grâce. Alors, c'est terrible là, ce que je dis là, mais quand Dieu frappe le méchant et qu'il ne frappe pas l'autre méchant, Dieu est en train de manifester sa grâce et sa bonté, sa patience. Parce qu'un jour, tout le monde va se présenter devant Dieu, puis il n'y en aura plus de temps de grâce. Vous voyez? Le Dieu juge. Dieu est celui qui juge, disait le psalmiste, « Lève-toi, ô Dieu, et juge la terre. » Et je pense que c'est quelque chose qui doit faire partie aussi de nos prières, de notre adoration, de notre intercession pour l'humanité. De demander Dieu juge, intervient, parce qu'à travers ça aussi, il y a des gens qui vont venir à Christ, parce qu'ils vont avoir une crainte de Dieu de réaliser les jugements qui viennent. Quelques passages qui nous viennent à l'esprit, des situations, des passages bibliques qui parlent de ce Dieu juge-là. J'aimerais ça vous entendre avant d'aller dans les notes. Soit des situations auxquelles vous pensez que se sont passées dans le récit biblique ou des passages qui parlent du Dieu juge. Quelques instants, brièvement. Alors, évidemment, avec Adam, c'est le premier jugement auquel on assiste, tout à fait. Avec Noé. Avec Noé, évidemment, c'est le premier jugement mondial hein, où il juge toute la terre. Un autre. Sodome et Gomorre, définitivement. Ananias et Saphira. On a vu dernièrement dans le livre des juges une ville qui a été traitée comme Sodome et Gomorre en Israël. L'autre exemple, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à des manifestations de ce Dieu juge dans la Bible? Le jugement sur les Égyptiens, à travers les plaies d'Égypte. Oui. La déportation d'Israël. Puis franchement, le premier qui devrait nous venir à l'esprit, c'est quoi? C'est la croix. Quand vous voulez mesurer l'ampleur ou l'importance de cet aspect-là de la personne de Dieu, dites-vous que Dieu est suffisamment juste et juge suffisamment sévèrement pour que la rédemption des hommes demande qu'il maudisse son fils. Il n'y a pas pire que ça. Ceux qui sont parents, vous le savez. Il n'y a pas pire que ça. OK, quelques passages ensemble. C'est ça. Je suis dans les notes, là. Si de l'histoire biblique, nous passons à l'enseignement biblique, la loi, les prophètes, les livres de sagesse, lorsque vous lisez Sapientio, c'est les livres de sagesse, on parle des psaumes, des proverbes, ecclésiastes. Les paroles de Christ et de ses apôtres, nous nous apercevons que cette notion d'un Dieu juge est omniprésente. Et ça, c'est vraiment important dans votre compréhension de la révélation de Dieu, de la parole. Si ce n'est pas clair pour vous, je vous encourage fortement à lire les Écritures cette année en identifiant dans toutes ces portions-là des Écritures la présence du Dieu juge, d'accord? On fait des distinctions, on veut, comme il y a des zones où on se dit non, cet aspect-là de Dieu n'est pas présent. Comme par exemple, j'ai mentionné à plusieurs reprises ici dans le cours cette illustration où j'ai un de mes amis là, qui ne voit pas ce Dieu juge-là dans le Nouveau Testament sous les paroles de Jésus. Mais je veux dire, il n'y a personne qui a parlé de damnation éternelle comme Jésus. Donc, c'est hyper présent dans l'enseignement de Jésus. C'est là dans toutes les Écritures. Dans Ecclésiastes 12, 1 et 16, on lit « Dieu appellera en jugement, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Le Nouveau Testament tout entier est habité par la certitude que le jour du jugement universel viendra et pose le problème soulevé par la perspective d'un tel événement. Comment nous, pécheurs, pouvons-nous nous mettre en règle avec Dieu pendant qu'il en est encore temps? Et donc, c'est fondamental à notre prédication de l'Évangile, c'est fondamental à notre présentation du christianisme, de la foi chrétienne. On ne peut pas essayer d'embellir ce message-là si, à partir du moment où j'essaie d'adoucir ça, je suis en train de ravir du christianisme la beauté même de son message. Ce qu'il y a de plus beau dans le message chrétien, dans le christianisme, c'est quoi? C'est la grâce faite à ceux qui méritaient d'être jugés. Donc, à partir du moment où dans mon discours, lorsque je veux annoncer l'Évangile à mes enfants, lorsque je veux annoncer l'Évangile aux gens autour, à partir du moment où je suis mal à l'aise de parler de ce Dieu juge-là, c'est certain que je vais passer à côté du plus beau. Jésus va devenir ton body, qui est là pour t'aider à mettre un peu d'ordre dans ta vie. Il va devenir ton pote qui est là pour te consoler quand ta vie est triste puis tu as besoin d'une grosse doudou pour t'entourer. Il va être celui qui va te donner la foi pour surmonter les obstacles puis te trouver une nouvelle job. Alléluia, c'est tout vrai ça. Mais vous allez vous en tenir à ça, vous comprenez? Parce qu'il ne sera pas celui qui s'interpose entre celui qui s'en vient te détruire à cause de sa justice et sa sainteté, pour te mettre à l'abri. Il ne sera pas celui qui vient juste te couver lorsque le jugement tombe pour le prendre sur lui. Et donc, je vais enlever au message chrétien ce qu'il y a de plus beau. Si je suis mal à l'aise avec ça. C'est vraiment important dans notre discussion avec les gens, avec nos enfants, lorsqu'on parle entre nous, d'apprendre comment adresser la culture, s'adresser à la culture, en trouvant des approches qui vont être apologétiques, où on va faire une bonne défense de la foi, intelligente, puis en sachant me rendre à cet endroit-là dans mon discours avec les gens. D'accord? Puis bon, à mon avis, très maladroitement, mais les témoins de Jéhovah essaient de le faire. Lorsqu'ils arrivent à la porte, puis quand ils sont à ta porte, c'est quoi une des premières phrases qu'ils vont dire? Je sais pas si vous vous rappelez, ils changent tout le temps, là, pardon? Vous trouvez pas que ça va mal dans le monde, hein? C'est la première phrase qu'ils vont nous dire, mais où est-ce qu'ils s'en vont? Ils arrivent avec une solution? Hein? Mais c'est ça, il faut que j'y aille à un moment donné. Et donc, dans votre réflexion, lorsque vous voulez parler avec les gens, puis vous dites, ouais, mais j'ai parlé avec un collègue, puis on a parlé de Jésus, mais c'est comme, j'avais l'impression, en fin de compte, qu'il n'y en avait pas vraiment besoin, qu'à moi-même, je le disais, puis j'étais rendu là, tu sais. Est-ce que tu as pensé à ton chemin pour te rendre là, pour qu'ils voient qu'il y en a besoin, puis qu'ils voient que le monde a besoin de ça, puis que c'est très sain qu'il y ait un juge sur la terre? Puis effectivement, les choses ne vont pas très bien. Tu sais. Donc, tous les matins, vous avez des arguments en béton pour parler du Dieu juge, juste en lisant le journal. Tous les matins, vous les avez, ces arguments-là. D'accord? Donc, le Nouveau Testament, c'est omniprésent dans le Nouveau Testament. Et si dans votre vision de Dieu à vous, vous avez encore ce malaise-là, j'ai beaucoup insisté à travers ça, à travers le cours, puis dans les dernières années, mais c'est parce que je parle avec les chrétiens, puis je le sens, ça. Je sens qu'il y a un malaise avec ce Dieu saint, ce Dieu juge-là. Et vous n'aurez pas de message à donner. Je vous le dis. Ça va avoir une espèce d'évangile de la prospérité où Dieu est là pour vous aider à remplir votre compte de banque. Le Nouveau Testament attend le jour du jugement, le jour de la colère à venir, et proclame que Jésus est le divin sauveur, mais qu'il est le juge aussi qui s'en vient. Et c'est lui qui va juger. Donc encore, même sur la personne de Christ, même sur la personne de Jésus, je dois en venir à le présenter comme celui devant qui tout homme va comparaître et qui va être notre juge. Donc, lorsqu'on Camille parlait justement de on regarde le monde, puis on dit, oui, mais si le Dieu juge est là, est-ce qu'il ne juge pas inéquitablement actuellement? Il faut que j'apprenne à réfléchir moi-même, puis à revenir à cette idée qu'on est dans un temps de grâce, nous dit l'apôtre Pierre. Dieu use de patience envers l'humanité. Et donc, lorsque Dieu frappe, il fait juste nous dire, ça va pas toujours être comme ça, les amis. Un jour, la justice va venir. Faut que je sois confortable avec ce raisonnement-là, parce que je veux me rendre à Christ. Puis je peux pas juste me rendre à Christ en disant, il est mort pour toi, puis regarde comme il est beau, il y avait des gougounes, puis une petite robe, puis tu pouvais y cracher dessus. Il disait, Père, pardonne-leur. Ouais, c'est ça qu'il disait là. Après ça, il va dire d'autres choses quand il va revenir. Ça sera pas, Père, pardonne-leur. Il va dire, je vous connais pas. « Retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Jamais je vous ai connu. Vous ne serez pas couvert par ma grâce à moi. » Et donc, même dans la personne de Jésus-Christ, dans ma vision de Christ, si j'ai un Jésus en gougoune avec sa petite robe blanche qui est là juste pour me dire « Je t'aime, mon enfant », il y a quelque chose que je n'ai pas saisi de la grandeur de Christ. Ceux qui sont des fans du Seigneur des Anneaux, c'est super clair que pour Tolkien, Gandalf, c'est une image de Christ. Et c'est pour ça qu'il est terrifiant. Je ne sais pas ceux qui ont vu le film, mais lorsqu'il se présente à Bilbo au début, puis à un moment donné, il commence à argumenter avec lui, puis il fait juste, tu sais, comme il se transforme avec sa grosse voix. C'est Frodon, c'est ça Frodon? Frodon, ça qu'est! Puis là, tout d'un coup, il se transforme. C'est ça qu'il est en train de nous montrer dans les Chroniques de Narnia. Lorsque Aslan se présente devant la reine, puis la reine commence à argumenter, puis à un moment donné, c'est ce lion-là, hein, puis il fait juste comme rugir. C'est Christ, c'est Jésus. Et ça doit faire partie de notre vision de Christ. D'accord? Sa grâce, sa douceur, sa bonté, le fait que Dieu parle dans un souffle doux à l'oreille d'Élie, ne doit jamais venir obscurcir, cacher le fait qu'il est le Dieu terrifiant. Il est le Dieu terrifiant qui aime et qui fait grâce. Mais il est le Dieu terrifiant, il est le Dieu juge. Et Christ est le Dieu juge. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur ça? Avant d'aller un petit peu plus loin. Vous êtes cool avec ça le matin, vous ne voudriez pas vous interposer contre le juge? Ça va? C'est cool? Est-ce que vous arrivez à intégrer ça lorsque vous parlez du Seigneur? Ah, excuse-moi, Joël, vas-y, je t'avais pas vu.
J'ai appris que quand je grandissais, que ma conception de Dieu était peut-être déformée et que ça a beaucoup d'impact dans mes décisions quotidiennes. Je pense que j'ai grandi à avoir un Dieu un petit peu juge, justement un Dieu un peu trop sévère. Puis souvent, j'ai grandi en ayant des pensées qui étaient sévères sur moi-même à cause de cette conception-là. Mm-hmm. C'est ce qu'on m'a fait comprendre dans mes cours chez les Dominicains, ouais. Entre autres. Ouais. Et puis là, maintenant, ce matin, vous nous apprenez que Dieu est juge, mais je l'apprends d'une autre façon. C'est drôle, hein? C'est le même mot. C'est par contre, je ne sais pas si tu peux faire une distinction entre ce qu'on a appris dans notre héritage, qui nous a été souvent inculqué dans notre Église, dans notre enfance. Mais je pense que je connais déjà la réponse, sauf que peut-être.
Super de bon point.
Ouais.
Excellent, merci.
Merci.
Merci. C'est vraiment important vos commentaires, hein? Parce que là, c'est sûr, je m'adresse à une culture qui n'a pas connu autant ça. Mais effectivement, On déforme aussi énormément l'Évangile. Si on présente le Dieu juge, on enseigne prétendument la grâce, puis qu'après être gracié, on doit toujours gagner la faveur de ce juge-là. Et donc là, la grâce est mal prêchée aussi. Il n'y a pas de... Excusez-moi. C'est vraiment, vraiment l'idée de Paul, c'est qu'on doit enseigner tout le conseil de Dieu. Et donc, je peux perdre l'Évangile en ne parlant pas du Dieu juge. Je peux ne jamais annoncer l'Évangile en ne prêchant pas comme il faut la grâce. Et c'était là ce qui t'était enseigné. C'est qu'une fois que tu es gracié, chacune de ces faveurs, tu dois les mériter. Ça, c'est faux, ça. Ça n'existe pas des faveurs méritées. La grâce n'est pas méritée. La grâce est grâce de Dieu. Pardon? C'est ça, c'est un cadeau. C'est une grâce. Une grâce, c'est quelque chose que quelqu'un te donne et que tu ne mérites pas. Et le défaut avec cet enseignement-là que tu avais reçu, qui est, je vous dirais que c'est le mode par défaut de l'être humain, c'est soit que Dieu est un Dieu bonbon qui ne te demandera jamais de rendre des comptes, ou soit que c'est un Dieu qui va toujours te juger puis qui n'est pas en mesure de faire grâce. Et donc, la grâce n'apparaît pas dans ça. D'accord? Donc, c'est sûr que là, tu peux le comprendre autrement maintenant que tu as compris la grâce. Et c'est vraiment ça qui manquait. Et donc, avec mes enfants, lorsque je les enseigne, c'est ça, tout le Nouveau Testament, c'est tellement clair que le chrétien est appelé à marcher dans la crainte de Dieu en même temps qu'il est appelé à marcher dans la conviction que Dieu aime puis Dieu pardonne. Ça ne disparaît pas du Nouveau Testament, cette idée que Dieu va quand même nous demander de paraître devant lui. Mais si je ne saisis pas bien la grâce, je vais juste avoir les yeux sur ça. Si d'un autre côté, je ne saisis pas bien l'aspect que Dieu est juste, Dieu est juge, ma conception de la grâce va être complètement édulcorée, elle va être délavée de toute sa puissance, de toute sa beauté. C'est une espèce de Dieu qui lance sa grâce comme ça sur n'importe qui pendant qu'on est en train de s'entretuer. Il nous asperge de sa grâce. Puis on veut juste continuer. De toute façon, il y a de la grâce. T'sais. Fait qu'on continue à se backstabber toute la gang puis à s'entretuer. Donc, j'arrive encore à un problème là. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. C'est une des choses qu'on essaie de faire ici dans l'Église. On essaie d'enseigner tout le conseil de Dieu. D'accord? Et lorsque Paul parle d'enseigner tout le conseil de Dieu, c'est de ne pas rougir devant aucune partie des Saintes Écritures, mais les exposer comme il faut dans leur contexte. C'est ça qu'on est en train de faire à travers les 10 commandements. Donc, par exemple, pour revenir sur le commentaire ou la question de Joël, je ne ferais pas un bon travail actuellement en exposant les 10 commandements si on terminait cette série-là, ou même chacun des messages, avec simplement un fardeau sur nos épaules. Parce qu'effectivement, la loi bien prêchée est d'abord un jugement sur l'homme, n'est-ce pas? La loi est d'abord un pédagogue, nous dit l'apôtre Paul, qui nous montre qu'on est pécheur, puis on y arrive comme juste pas à respecter cette loi-là vraiment. Donc, d'une part, il y a ça, mais en même temps, si je ne me rends pas à la grâce, au fait qu'il y a eu ce Fils parfait, Jésus-Christ, qui lui a parfaitement observé la loi, et donc qui peut être notre justice à notre place, si je me rends pas là, je vais juste déposer un joug sur les épaules de l'assemblée, de l'auditoire, des visiteurs même qui ne connaissent pas Christ. D'accord? Et donc, c'est vraiment les deux volets. Notre tendance naturelle, c'est aller vers un des deux. Puis je vous dirais, on n'est jamais juste un ou l'autre. Certains d'entre nous vont se définir comme moi, j'ai tendance à être plus légaliste, moi j'ai tendance à être plus libéral, tout ça. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des domaines où vous êtes légaliste, là où vous vous sentez au-dessus de votre affaire, puis vous êtes sur la coche, peut-être que vous êtes légaliste dans votre jugement des autres. Fait qu'on est, pas juste un ou l'autre, c'est pas tout à fait vrai. On a une tendance peut-être plus grande d'un côté ou l'autre. Et il faut constamment venir aux Écritures pour dire non, la parole de Dieu dit ça, la loi de Dieu c'est ça, celui qui enfreint ça pêche, et puis je dois revenir au message de l'Évangile, le message de la grâce. Mais la grâce me conduit à honorer cette loi-là. D'accord? La grâce ne me conduit pas à tasser le Dieu juge puis il disparaît de mon champ de vision. Au contraire. Est-ce que ça va? C'est bon? Quelques notions. Le juge est quelqu'un qui possède l'autorité. Dieu est à la fois le législateur et le juge, d'accord? Lorsqu'on est dans notre système judiciaire, l'être humain étant partial, l'être humain n'est pas impartial, mais l'être humain va être biaisé. Nous faisons bien de diviser ces différents rôles-là, d'accord? Et donc, on va voir le législateur, celui qui va définir les lois. Et puis après ça, on va voir le judiciaire qui va venir juger. Et là, on a tout le système judiciaire avec le corps policier, tout ça. Puis malgré ça, ça vaut ce que ça vaut. Hein? On suit ça dans les médias. Mais on comprend, le principe me semble très, très sage. Or, dans la personne de Dieu, on n'a pas cette impartialité, on n'a pas cette partialité-là, on n'a pas ce manque d'objectivité-là. Dieu est impartial, Dieu est juste, et donc Dieu est à la fois le législateur et le juge. Ce n'est pas une bonne idée d'être en conflit avec celui qui est à la fois le législateur et le juge. C'est comme ça s'annonce mal, tu sais. Tout à l'heure dans le message, je vais donner cette illustration-là, mais parce que dans le troisième commandement, Dieu semble doux. Il dit que celui qui va prendre son nom en vain ne restera pas impuni, mais il fait juste dire qu'il ne restera pas impuni. T'sais. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne restera pas impuni. J'ai bien aimé un des commentaires que je lisais. Il dit, c'est un petit peu comme si un juge venait à côté de toi ou un policier. Tu sais, tu as ta canne de graffiti dans les mains, puis tu te prépares à faire ton graffiti, puis le policier s'approche puis il dit, je sais pas, je ferais pas ça, moi, si j'étais à ta place. Ben, tu sais, c'est gentil la manière qu'il dit, mais tu lis entre les lignes, hein, tu sais. Fait que c'est ça. Dieu est comme ça. Il est à la fois le législateur et le juge. Donc, lorsqu'il m'annonce sa loi, c'est aussi lui qui va juger à la lumière de cette loi-là. Le juge est quelqu'un de sage qui discerne la vérité. Ce juge-là, nous disent les Saintes Écritures, connaissait notre vie avant qu'elle ne soit, parce qu'il est hors du temps, connaissait le début et la fin de ma vie, chacune de mes pensées lui sont connues avant même qu'elles ne soient formulées en moi. D'accord? Et donc, c'est devant ce juge-là. Un chrétien ne devrait vraiment pas avoir beaucoup, beaucoup de problèmes avec Big Brother. D'accord? Je veux dire, me faire découvrir comme chrétien, je marche sous le regard de Dieu. Je ne peux pas être plus tout nu que ça. Qu'est-ce que les gens pourraient découvrir que je ne voudrais pas qu'ils sachent que Dieu ne sait pas déjà? D'accord? Et donc, ce Dieu-là discerne la vérité. Dieu ne sera jamais injuste. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fondamentalement clair dans votre esprit lorsque vous parlez avec vos enfants, lorsque vous parlez de Dieu. Il n'y a aucun des jugements de Dieu qui va être injuste. Dieu nous connaît parfaitement. Le hic, c'est un peu comme Camille mentionnait tout à l'heure, c'est qu'on est très clément envers nous-mêmes puis on ne se trouve pas si méchant que ça. Mais bien comprendre le fait que Dieu nous connaît vraiment devrait être vraiment terrifiant. Vraiment terrifiant, d'accord? Parce que Dieu nous connaît parfaitement. Il n'y a absolument rien qui va être caché. Donc, il ne se retrouvera pas comme certains juges qui vont poser un jugement puis qui vont faire des erreurs parce qu'ils n'ont pas accès à la vérité. Pas seulement qu'ils peuvent être eux-mêmes, admettons, corrompus, mais ils n'ont pas accès à toute cette vérité. Dieu a accès à toute la vérité. Il n'y a pas de problème là. Il en est toujours ainsi. Dieu saura. Bien sûr, parce qu'il savait, parce qu'il sait, parce qu'il est. Quatrièmement, le juge est quelqu'un qui a le pouvoir d'exécuter la sentence. Alors, il arrive aujourd'hui encore qu'on lit des jugements dans les journaux où des juges vont se prononcer. Et le juge exprime un regret parce qu'il va dire « La loi ne supporte pas le jugement que je devrais administrer. Le judiciaire va être trop clément avec toi parce que le système va être trop clément. » Ça arrive là, qu'on a des juges qui prononcent un jugement, puis il exprime « À mon esprit, tu en mériterais plus que ça, mais la loi me contraint à ne pas aller plus loin que ça. » D'accord? C'est pas le cas avec Dieu. C'est pas le cas avec Dieu. Dans ce cas-là, le juge est quelqu'un qui a le pouvoir d'exécuter la sentence à 100%. Donc, il ne lui manque rien pour administrer son jugement après. Voici quelques distinctions entre Dieu le juge et les hommes qui jugent. Je pensais que j'avais arrêté ça, je m'excuse. On l'a arrêté. Quelques pensées rapidement. Il est dit que Dieu jugera tous les hommes selon leurs œuvres. Et puis Paul va développer cette idée-là en disant que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. La perfection du jugement de Dieu fait partie de sa perfection morale. Et donc ça fait partie de la personne de Dieu. Dieu va le faire. À partir du moment où Dieu s'approche de nous, Dieu est en train d'évaluer ce que nous sommes, ce que nous avons fait. L'indifférence pour tout ce qui concerne le domaine moral serait une imperfection divine et non une perfection s'il ne jugeait pas le monde. Dieu ferait preuve d'indifférence. Le fait qu'il se soit érigé en juge afin de juger le monde est la preuve indéniable que Dieu est un être moralement parfait, qu'il n'est pas indifférent aux questions de bien et de mal. Je pense que c'est l'aspect le plus difficile du message à livrer à notre génération. D'accord? Je pense que c'est l'aspect le plus difficile. L'être humain, étant donné qu'il est l'homme postmoderne, ne veut pas définir le bien et le mal, puis on est obligé d'aller dans des exemples, des fois assez radicaux, pour aller l'aider à connecter quelque chose à l'intérieur de lui où il sent que c'est mal, profondément mal, d'accord? Et donc, il faut le ramener à cet endroit-là où il va dire, « Regarde, je comprends là, que je crois dans l'évolution, je comprends que ça ne se tient pas, tout ça, mais il y a des choses qui sont mal, tu sais? » Puis il faut que j'aille l'aider à reconnecter avec ça lorsque je suis en train de parler avec lui. Parce qu'autrement, j'arriverai pas à me rendre à cet endroit-là. Il y a des choses qui sont mal, puis qui vont être mal encore dans un million d'années. Notre société est rendue à l'endroit où bien des gens, dans une première discussion avec eux, si tu leur parles de l'enfer, si tu leur parles de la condamnation éternelle, même Hitler, ils ne peuvent pas concevoir qu'il soit damné pour l'éternité. Il y a un moment où ça va être assez. Tu sais? Puis il va pouvoir avoir juste une petite tape sur ses fesses, puis Dieu va l'accueillir avec un gros câlin, puis il va dire, « OK, tu es allé assez longtemps dans ta chambre, tu peux sortir. » D'accord? Et je pense que c'est le plus gros défi dans le message. D'accord? Parce que si je ne me rends pas là, je veux dire, il voudrait juste l'évangile de la prospérité pour dire, « Jésus peut t'aider à remplir ton compte de banque. Quand tu auras une grosse pépine, tu diras, « Jésus, Jésus, viens m'aider. » C'est tout ce qui vous reste comme message, d'accord? Parce que vous êtes passé à côté d'éléments essentiels. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de plus difficile à communiquer à notre génération? Peut-être que je me trompe. C'est quelque chose que j'oublie. Est-ce quelque chose de plus difficile? Oui, Camille. Le fait qu'il y a juste une vérité. Oui. C'est deux choses conjointes, d'accord? Il y a juste une vérité. Il y a une vérité. Il y a une justice, il y a un bien et un mal. Et c'est tout lié à cette réalité-là, est-ce qu'il y a une réalité définissable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là? Tu sais? Fait que, comment vous faites ça? Quand vous parlez avec vos enfants, quand vous parlez avec des gens qui, a priori, ne vont pas adhérer à ça. Puis si vous pensez que vos enfants adhèrent tous à ça, là, c'est juste que vous n'avez pas jasé avec eux après 3-4 années à l'école, d'accord? C'est juste ça, là. Mais avec des voisins et tout ça, comment vous abordez cette question-là pour vous rendre à l'endroit où vous pouvez faire une évidence de ça? Qu'il y a un bien, il y a un mal, puis c'est correct qu'il y ait un juge. Comment vous faites ça? Oui, Karine? Juste une seconde. Merci.
On ne sent pas, ils ne sont vraiment pas intéressés, puis ils ne veulent pas en entendre parler.
Puis comment tu le fais si tu veux avoir cette discussion-là, puis te rendre à cet endroit-là?
Je ne suis pas capable, ils ne veulent pas. Ils mettent un terme. Moi, je crois.
OK.
Ça finit là.
OK. Comment vous faites ça? Comment vous faites pour vous rendre à cet endroit-là, Camille?
Ça ne veut pas dire que ça donne de quoi, là?
Non, on ça ne veut pas dire que les gens...
On
les
tombe
gens
dans les arguments à ce moment-là.
Ouais, ouais.
On peut donner des exemples. On peut juste les aider à réfléchir sur leur propre jugement de ce qui est le bien et le mal. Des choses que eux considèrent mal et que pour eux il y a comme tu sais si on parle de la pédophilie tu sais qu'on leur dit regarde la pédophilie pour toi est-ce que c'est mal mais ça c'est incroyable comment tu me poses cette question là c'est sûr que c'est mal oui mais regarde il y a des cultures où ce que les petites filles se marient à 8 ans puis c'est normal eux autres c'est pas mal
ouais.
Ça a pas de bon mais oui mais regarde c'est ça là si tu relativises le bien et le mal tu dis que ça dépend. Bien, en quelque part, il y a quelque chose qui est bien et il y a quelque chose qui est mal. Et aux yeux de Dieu, bien, ça va être jugé.
Oui. Quelqu'un d'autre? Brièvement. Il faut aller chercher dans ce que les gens croient. Il y a des choses qu'ils croient qui est mal. Par exemple, cette semaine, j'ai pris un café avec une jeune fille qui comme en démarche, elle cherche. Elle était là avant vendredi soir, puis elle a écouté les témoignages, tout ça, puis elle avait des bonnes questions. Puis à un moment donné, on s'est mis à parler de l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu, puis elle m'entendait, puis elle dit, « Quand tu dis que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, tu sembles comme mettre les animaux à part. » Ah, je dis, « Oui, c'est vrai. OK, c'est vrai. » Fait que là, on est allé dans Genèse 1, 26, 27. Puis moi, tout bonnement, naïvement, je lis le passage, tout ça, pour lui expliquer c'est quoi l'idée de l'image de Dieu. Elle comprenait ça, ça allait bien. Mais là, elle a accroché sur quelque chose d'autre. L'être humain, son mandat, c'est de dominer sur les animaux de la terre. Il dit, quand? Elle dit, quand tu dis ça, là, c'est quoi que tu veux dire? Parce qu'elle dit, je regarde la terre, puis je suis pas sûr que... Parce que j'ai expliqué, c'est intendance, c'est prendre soin, c'est régir, on est des régents. Mais elle dit, je trouve pas qu'on est très bon. J'aurais pu à ce moment-là simplement dire, ben, pour moi, c'est pas bien ou mal, on peut bien toute la péter, la terre. Puis je vous dis, je pense m'acheter un gros Range Rover, là. Et si elle avait réagi, j'aurais dit, ah, c'est bien ou c'est mal? Donc, il y a quelque chose de mal. Je suis d'accord avec toi. C'est là que j'aurais fini, vous comprenez? Mais donc, elle croit qu'il y a du bien puis du mal. Le problème, c'est pas que l'être humain ne croit pas qu'il y a du bien et du mal, c'est que l'être humain veut redéfinir selon ses désirs, ses vices, ses aspirations, ce qui est bien et ce qui est mal. Vous comprenez? C'est beaucoup plus ça. Et là, pour justifier cette liberté-là qu'on veut se donner, ben, on s'est juste entendu comme société pour dire chaque génération pourra le redéfinir comme ça y tente. C'est juste ça, en fin de compte. Fait que c'était mal pour nos grands-parents, c'était mal pour nos arrière-grands-parents, c'est correct maintenant. C'était pas objectivement mal. C'était mal dans ce temps-là, puis si on est tous corrects avec ça maintenant, donc c'est correct maintenant. Mais tout ça, c'est le mouvement de 1 million, 2 millions, 30 millions, 100 millions d'individus qui veulent juste avoir la liberté de choisir eux autres ce qui est bien et ce qui est mal. Mais fondamentalement, au plus profond d'eux-mêmes, ils estiment qu'il y a des choses bien ou mal. Alors avec les plus endurcis, moi je vais aller assez loin, je vais provoquer assez loin. Je vais dire des choses effrayantes, que j'ai déjà dit ici, là. Je vais dire des choses effrayantes comme, question environnementale, moi je pense qu'on peut régler ça assez facilement. On a des virus assez efficaces, on a juste à éliminer 3/4 de la population mondiale. De toute façon, il y en a, je pense, qui ne méritent pas de vivre, ils ne sont pas capables de se débrouiller. Ils s'entretuent, il y a des continents où c'est toujours la guerre. Hein? Fait que je pense qu'on élimine ça, réduit la consommation, on se donne de l'avenir ensemble. Vous devriez leur voir les yeux. Ne sommes-nous pas tous des rats sur ce navire? Fruit de l'évolution, rien de sacré en nous, juste des bêtes. Comprenez? Donc, il faut que j'aille trouver cet endroit-là où ils estiment eux-mêmes qu'il y a des choses qui sont mal. Si vous n'avez pas compris, là, j'ai dit des niaiseries, d'accord? J'ai vraiment dit des niaiseries, là. C'est pas ce que je crois, là. Je suis juste en train de faire un argument, d'accord? Avec eux. Ça va? Une autre citation de Packer, il faut bien souligner que ce serait une erreur de considérer la doctrine du jugement divin et spécialement celle du jugement dernier, avant tout comme un épouvantail destiné à effrayer les hommes et à les obliger à mener une vie droite qui ne serait que pur formalisme. Il est vrai que cette doctrine offre pour tous les impies d'effrayantes perspectives, mais elle a pour principal effet de révéler le caractère moral de Dieu et de donner à la vie humaine une signification morale. Alors, les sociologues qui étudient la science des religions voient dans cette idée-là d'un jugement dernier seulement un outil de manipulation des masses, d'accord? C'est une manière pour le clergé de pouvoir manipuler les masses. Et effectivement, on peut faire ça avec, d'accord? C'est un petit peu à ça que Joël faisait référence aussi. Lorsqu'on a une espèce de vision où il faut être confessé au curé parce que là, tu as un jugement sur toi parce que tu as péché cette semaine. Hey, tu as du pouvoir, mon ami, dans cette affaire-là. Puis effectivement, il y a énormément d'abus à travers tout ça. Mais c'est pas pour ça que c'est là dans les Écritures. Le jugement dernier qui est annoncé, c'est la suite logique d'un Dieu saint, d'un Dieu qui a la puissance, qui a les moyens de ses convictions. Ses convictions, c'est que le mal, c'est mal, puis il a les moyens pour juger cela. D'accord? Et donc, il faut que ça fasse partie du message et il faut aider les gens à comprendre que cette notion-là de Dieu juge, c'est pas un mal nécessaire. C'est un des aspects vraiment extraordinaires et beaux de la personne de Dieu. C'est vrai. On est tellement tordu que pour nous, le Dieu juge, c'est comme, ben, tu sais, il y a comme pas le choix. Ça fait partie de sa beauté incroyable. Il aime la sainteté et la droiture. Tableau, c'est un vice cette affaire-là? Ben oui, à nos yeux, souvent, on pense que c'est un vice, tu sais. Ouais, je le sais, hein, il n'en laisse pas passer une. C'est quoi, tu veux qu'il en laisse passer? Oui, qu'il soit gracieux, c'est correct, mais qu'il ferme les yeux? Non, il faut qu'il fasse grâce consciemment à cause du sacrifice de Christ. Et on va terminer avec cette idée de Jésus-Christ le juge. Matthieu nous donne la plus claire des préfigurations de Jésus en tant que juge. Et là, on cite un passage, « Le Fils de l'homme s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. » Ça veut dire tout le monde sur la terre. Il séparera les uns d'avec les autres. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. » C'est absolument impossible d'échapper au jugement de Jésus-Christ. C'est impossible. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a nommé pour cette fonction. Il se tient au bout du chemin de la vie de chacun, sans exception. Jean 5, 24, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et celui qui ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et donc, c'est un petit peu à ça que Denis faisait référence tout à l'heure. Il nous a offert la grâce, et celui qui rejette la grâce confirme son jugement. D'accord? Confirme son jugement. Maintenant, je vous donne juste une petite piste, je ne me lancerai pas là-dedans, là, parce que ce serait un long sujet. C'est bien important. Je ne suis pas condamné parce que je rejette Christ. J'étais déjà condamné et je peux juste confirmer ma condamnation si je rejette Christ. D'accord? Parce qu'autrement, si vous êtes juste avec l'idée « je suis condamné quand je rejette Christ », vous allez avoir un problème parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'entendront jamais parler de Jésus. Je ne suis pas condamné parce que je rejette Jésus-Christ. J'étais condamné. Et je confirme ma condamnation quand je rejette Christ. Mais je l'étais déjà condamné. Je suis condamné parce que je suis pécheur. D'accord? Ça, c'est super important. Parce qu'autrement, vous allez vous poser des questions. Là. Oui, mais qu'est-ce qui arrive avec ceux qui n'entendent pas parler de Jésus? Ils vont être condamnés. Non. Ils sont condamnés. On s'en va surtout de la question de la grâce. OK? Je n'irai pas là-dedans ce matin. Là. Mais c'est vraiment, méditez sur ça, réfléchissez à ça. C'est important que ce soit clair dans votre esprit. Quand vous ouvrez toute cette voie-là après ça, puis vous dites, non, les gens sont damnés juste sur la question, est-ce qu'ils acceptent ou non Jésus-Christ? Le bout de toute cette route-là, là, c'est l'universalisme. Ça veut dire, en bout de ligne, Dieu va faire grâce à tout le monde. Puis c'est là que ça termine, d'accord? Je vous le dis, là, je pourrais vous donner les théologiens à lire, puis vous allez voir l'évolution dans leur théologie. Vous terminez là. C'est pas ça que les Saintes Écritures enseignent. L'être humain est jugé sur la base de ses œuvres. Et celui qui entend Christ, effectivement, confirme le jugement qui est sur lui. D'accord? Parce qu'il rejette cette grâce-là à nouveau. Je vais lire cette longue portion pour terminer. D'une part, il est certain que la justification est un don de Dieu qui permet aux croyants de ne pas être condamnés et exclus de la présence divine parce que pécheurs, mais graciés. Ceci ressort de la vision du jugement apporté dans Apocalypse 20, les versets 11 à 15, où nous voyons s'ouvrir à côté des livres où figurent toutes les œuvres des hommes le livre de vie, qui renferme les noms de ceux qui ne sont pas jetés dans les temps de feu avec le reste des hommes, mais ils se trouvent là à cause de Christ. D'autre part, la justification gratuite accordée par Dieu n'empêche pas, c'est à ça que Karine faisait référence tout à l'heure, les croyants d'être jugés en tant que chrétiens. Et d'être privés de ce dont d'autres jouiront s'il s'avère qu'ils ont été de mauvais chrétiens, négligents, nuisibles. C'est le sens de l'avertissement que Paul adressait aux Corinthiens en leur recommandant de bien prendre garde à la façon dont ils bâtissaient sur le seul vrai fondement, Christ. 1 Corinthiens 3, 12 à 15, « Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Récompense et perte sont à comprendre en termes de relations plus ou moins intimes avec Dieu. Et donc, même pour le chrétien, cette gloire et cette beauté du Dieu qui juge ne doit pas disparaître de nos yeux. Mon refuge quotidien, c'est la grâce. Ma force et ma joie, mon assurance, c'est la grâce. C'est là que je vais me réfugier à tous les jours. D'accord? Et donc, je suis en paix. Je sais que je suis couvert par la grâce de Christ. Mais quand je pêche, je dois me rappeler ce qui m'assure la grâce de Christ. Je dois aller confesser mon péché. Je dois me rappeler que c'est à un fort prix que cette grâce-là a été achetée. Et quand je marche dans ma vie chrétienne, je dois me rappeler aussi. Je dois me rappeler le livre de l'Apocalypse avec les jugements que Christ prononce sur les églises au début. Je dois me rappeler que ce n'est pas parce que je suis sous la grâce, comme dit l'apôtre Paul, que j'ai prétexte à me livrer au péché parce que la grâce va surabonder. Je dois me rappeler que Dieu regarde ma vie chrétienne aussi. Et c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de beau, même si c'est quelque chose de terrifiant. J'en veux pas, moi, personnellement, d'un petit Dieu comme ça. Je veux un Dieu grand comme ça, puis pas juste un Dieu amour avec une vision de l'amour qui impliquerait pas sa sainteté et sa justice. Même si des fois ça me fait trembler, puis je cours à la croix, puis je dis, « Oh Seigneur Jésus, couvre-moi de ta grâce. J'ai tellement besoin de toi parce que je tombe encore si souvent. » On va prier ensemble. Seigneur Jésus, cette description qui est faite de toi au début du livre de l'Apocalypse est terrifiante. Tu es beau, tu es majestueux, mais on voit ta puissance, ta justice qui vient vers les hommes. Et Seigneur, j'ai besoin de me rappeler à la fois de ta grâce, de cette parole merveilleuse que tu as prononcée, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » J'ai besoin de me rappeler de cela, mais de me rappeler aussi pourquoi tu étais pendu au bois et de me rappeler de cette dernière parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Me rappelant que tu as été fait péché pour moi, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Enseigne-nous par ton esprit, par ta parole, par nos discussions ensemble à pouvoir dire ces choses-là, que ça devienne limpide dans notre propos, Seigneur, dans nos méditations, dans nos réflexions, que ça fasse partie de notre adoration, de notre marche quotidienne avec toi. Et chaque fois que nous ouvrons la bouche, que ça puisse être disponible, qu'on ne soit pas mal à l'aise avec ces vérités tellement essentielles à une bonne présentation de ta grâce, Seigneur. Une bonne présentation de ta personne telle que tu t'es révélée. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen.